RMC, 9h, midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules, nous sommes avec vous jusqu'à midi tout à l'heure, à 11h30. Alors là, attention, le sujet de discussion. Le Brésil a adopté la garde alternée des animaux en cas de séparation du couple. Alors, la garde alternée des animaux, est-ce que c'est un vrai problème au moment de la séparation? Bah, c'est vos témoignages qu'on aura tout à l'heure à 11h30. On regardera ce que dit le code civil aussi, parce qu'il y a quand même un certain nombre de dispositions en France. En attendant...
On appelle ça la coparentalité animale.
Voilà, en attendant, avec Barbara Lefebvre, avec Sandrine
Pégan... Ça marche avec les poissons rouges.
Et avec Abel Boyi, on va accueillir notre invité. Notre invité, c'est le maire de Béziers, réélu. Bonjour, monsieur le maire.
Et avec un joli score, vous avez remarqué.
Oui, combien?
Un peu plus de 65% des voix.
C'est Lisnard qui a fait mieux que vous.
Et ouais.
Le maire justement, de Cannes. Tiens, une mise au point. Parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux hier.
C'est des conneries.
Que vous alliez rejoindre David Lisnard.
Mais bien sûr que non.
C'était un poisson d'avril.
Ce qui m'a exaspéré, c'est que Apathy le reprenne sans le vérifier. Je l'appelle pour lui dire c'est une connerie. Il me dit mais c'était pas si mal que ça comme idée. Voilà, j'ai dit qu'il aille se faire voir.
Mais est-ce que justement ça fait naître chez vous une idée d'aller rejoindre David Lisnard?
Mais non, je suis trop libre, j'ai pas envie dans un parti. Qu'est-ce que je foutrais dans un parti?
Mais est-ce que vous avez votre candidat ou votre candidate pour 2027? Ça pourrait être vous.
Non, on a le temps, on a un an pour se poser cette question-là, mais il va falloir se la poser. En tout cas, je pense que les partis, sur cette qui pourrait être sérieux, je pense que les partis sont le principal obstacle aujourd'hui en France pour que la France en sorte.
Ah
j'en
bon
suis intimement
persuadé. Pourquoi?
Parce que ça produit des solidarités, des contraintes, une langue de bois, une façon d'être qui est un problème. Vous voyez bien. Moi, j'aime bien tout un tas de gens, mais dans leur parti, tu étouffes. Moi, j'ai pas demandé à quelqu'un ce que je vais vous répondre là. J'ai pas envie. Je sais pas encore d'ailleurs vos questions. Donc
oui, mais
sais pas
Robert
ce que
Ménard, c'est bien d'être seul, mais un parti, ça permet aussi d'avoir une équipe, de l'argent.
Mais t'es pas seul.
Et puis aussi des militants. Et une organisation.
Mais on peut se permettre d'être seul quand on est Napoléon ou De Gaulle, hein, mais sinon après.
Comment?
Mais on a que des nains aujourd'hui. Hein.
Mais non, ça c'est autre chose. Je crois pas qu'on est seul. On est seul avec qui? Dans un parti, t'es seul. Moi, je me sens pas seul dans ma ville. Moi, je viens de gagner. Alors, c'est qu'une petite ville, je sais. Je viens gagner. D'un côté, j'avais le Rassemblement National. De l'autre côté, trois partis de gauche. Et voilà, le Rassemblement National, il est à moins 9%. La France Insoumise à moins de 4%. Je suis assez content. Et je pense qu'il y a quelque chose à tirer de ces enseignements.
Quoi?
Il y a des maires, moi je m'entends bien avec Lisnard, c'est un copain. J'ai remarqué qu'il y avait des journalistes qui sont dans un certain nombre de villes. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
Oui, en plus, notamment à Avignon.
J'ai
travaillé avec lui à ITélé à l'époque, oui. Et tout ça. Non, il y a quelque chose. Je pense qu'on peut imaginer autre chose. Je suis persuadé.
Mais en attendant, on a un petit problème là, avec la crise de l'énergie. Est-ce que le gouvernement soutient suffisamment les automobilistes?
Mais attends, c'est juste la réponse démago, et on y a droit à peu près tout le monde, c'est quand même on peut pas accepter que les gens payent tellement leur essence. Et moi je peux le dire d'autant plus que je suis dans des villes, enfin vous connaissez Béziers, à Béziers t'as pas le métro, le RER, tu prends ta bagnole.
On est dépendant de sa voiture.
Ouais, attends, où t'habites, il y a je sais pas combien de milliers, il doit y avoir 20 000 personnes qui rentrent chaque matin à Béziers pour venir travailler et tout. Ils viennent tous en bagnole, quoi. Tu veux venir, tu vas pas venir en vélo, il faut habiter ici pour penser que tu vas prendre le vélo.
Bon, on peut faire du vélo à Béziers aussi.
Non, enfin, c'est, pas, tu vas pas 15 bornes pour aller faire. En plus, Béziers, c'est pointu comme ça. tu le fais pas. Donc, la réponse, c'est oui, il faudrait faire des efforts. Mais en fait, c'est les mêmes qui, si le gouvernement faisait des efforts là, en disant, on va faire une ristourne et tout, ils diraient, ouais, mais c'est le retour.
Marine Le Pen voudrait qu'on baisse la TVA, par exemple.
Ouais, attendez. Ça veut dire, ça fait moins d'argent pour l'État. Très bien. Et où on fait des économies? Tu peux pas, non mais c'est ça la démagogie. Tu peux pas à la fois dire, il faut baisser l'essence. Bien sûr, on est tous d'accord. On va faire des économies sur le train de vie de l'État. Très bien. Où on les fait? Sur qui? Quelles économies on fait?
Il va falloir en faire parce que le pays est très endetté. Ouais, on a un déficit quasiment record en Europe. De toute manière, il va falloir faire des économies à un moment donné.
C'est à moi que vous le dites, je suis bien d'accord avec vous. Le problème,
là,
les mecs...
En ce moment, on tourne autour du pot parce qu'il n'y a pas de majorité, parce que là, on dit que c'est la présidentielle qui va devoir trancher, mais il va falloir à un moment donné dire la vérité aux Français.
Attendez. Chaque fois, on te dit, par exemple, je prends un truc très précis, il faut qu'il y ait moins de fonctionnaires. Je trouve que c'est une bonne idée. À l'État. J'attends la question que vous posez où il répond jamais. Où? Alors, pas là. Qu'est-ce qui reste? Bercy? Parce que là, Bercy, tu peux dire qu'il faut réduire. Tout le monde est d'accord, c'est le seul endroit. Tu vois, c'est de la démagogie. Moi, je l'ai vu dans la campagne électorale chez moi, mais nationalement, c'est le règne de la démagogie, des promesses que les mecs savent qu'ils tiendront pas. Vous savez ce qu'ils feront, tous ces gens-là?
Ce sont des promesses de dépenses supplémentaires. C'est vraiment des promesses de réduction
bien sûr.
De dépenses.
Et le jour où ils arrivent au pouvoir, ils te disent, ah, mais on va faire un audit. Et là, l'audit étant le truc de faux cul par excellence, on savait pas que la situation était aussi. Bah,
surtout que les audits,
difficile.
On les a quand même déjà. Quoi.
Tu vas rien découvrir. Non, mais ça permet de dire après, oui. On a découvert que ça va être terrible.
On
donc
pas
on va
dire,
pas se faire tout ce qu'on avait dit.
Faire,
non,
ouais.
ça va.
Aujourd'hui, donc, assez désabusé quand même.
Pas du tout.
Bah si, quand même sur constat. Donc les partis, ça sert à rien. Les candidats sont des démagos. Ils racontent n'importe quoi. C'est finalement vous rejoignez ceux qui disent qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, Édouard Philippe l'a dit. Quelle expression il a utilisé, Alain?
Ralacouane.
Ouais, qu'on ralacouane des politiques. Ralacouane des politiques, en fait.
Non, moi, attendez. Non. Je dis pas que c'est de la démagogie journalistique, mais j'étais à deux doigts de vous répondre ça. Non, je suis optimiste. Je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui ne fasse pas de promesses, que les gens peuvent entendre qu'on leur promet pas tout, qui disent pas je sais tout et je vais répondre à tout et j'aurai toutes les solutions. Personne ne croit ça. Le dernier qui nous a dit qu'il savait tout à peu près, c'est Emmanuel Macron. Vous savez, il est arrivé, il était jeune, il allait prendre à droite et à gauche et il savait tout. On tire le bilan 10 ans plus tard. Peut-être qu'on peut parler aux gens comme à des adultes.
Alors, question à Robert Ménard. Alors, parce que, en fait, si Robert est avec nous, c'est pour ce livre, Lettre à Clara, aux éditions Télémax, c'est à votre fille. C'est ça?
Clara, c'est ma fille. 24 ans.
Exactement. 24 ans. C'est une espèce de dialogue.
Je pense pas comme vous.
Pour lui expliquer certaines positions ou des faits qui se passent dans le pays aussi. Ouais.
Oui, c'est un constat, mais je suppose que je suis pas le seul à avoir des enfants ici. Moi, j'aime ma fille par-dessus tout. Je crois qu'elle m'aime, si j'en juge, au « je t'aime » de ses SMS qui les ponctue et tout. Avec ma femme, c'est la personne qui compte pour moi, qui compte vraiment. Donc, il y a ça, et puis, je constate, mais comme, je suppose comme d'autres parents, à quel point... On réagit tout le temps différemment. Mais pas sur des trucs, je te vois, les élections et tout. Oui, les élections aussi d'ailleurs. Mais des choses plus importantes que ça. Vous savez, les questions essentielles, je sais pas, moi, sur le féminisme, ma fille, dès que je dis un mot, enfin, il rigole, mais il faut pas rigoler.
Non, mais si on connaît ça à la maison.
C'est... Voilà, c'est ça, sur la famille. Ouais,
pas simplement. Comme ça, à chaque génération, il y a toujours une fracture générationnelle.
Et non, je veux pas dire ça parce que ça réduirait ce désaccord à quelque chose au fond que les années résorberont. En gros, t'es un peu con quand t'as 20 ans, oui. Tu verras la vie va t'apprendre des choses et tu vas penser un peu plus comme moi quand t'auras 40. Je veux pas lui dire ça parce que je trouve que c'est dévalorisé et surtout c'est pas écouter une partie de ce qu'ils disent. Parce que je pense, oui, je pense que j'ai raison sur un certain nombre de choses, mais j'apprends de ma fille. Enfin, on se connaît assez pour savoir qu'on a des enfants. Je veux dire, moi, je sais que Clara, elle a plus pesé que n'importe qui sur mon évolution.
Alors, sur quoi, par exemple?
Sur quoi? Par exemple, moi, j'ai beaucoup manifesté contre le mariage pour tous. Pas parce que je suis pas homosexuel, je suis pas homophobe. Enfin, en plus dans ma famille, on a toutes les raisons de ne pas l'être. Donc c'est pas ça. Mais parce que je pensais que c'était problématique pour l'évolution des familles et tout. Enfin, j'ai pas rentré. Elle était, vous en doutez, absolument. Et je me dis que je raconte dans le livre, je me suis retrouvé il y a quelques semaines ou quelques mois avec un couple de filles qui étaient gendarmes et qui me demandaient de les marier parce qu'elles pensent un peu comme moi. Et je me suis dit mais je m'en suis sorti parce qu'elles étaient pas, elles habitaient pas à Béziers, donc je pouvais pas les marier. Et je dis, j'aurais été emmerdé de leur dire non. Alors que, il y a 10 ans, je l'aurais assumé parce que quand je suis arrivé à la mairie, j'ai dit, on marie les couples homosexuels à Béziers, évidemment, mais moi, je ne ferai pas de mariage personnellement. Et je pense que j'aurais changé. Et je lui raconte ça pour lui dire, écoute, ma puce, oui, les choses, tu me changes.
Et donc, maintenant, vous êtes pour le mariage homosexuel?
Je me pose des questions que je ne me posais pas. Il n'y a pas plein de questions, vous n'avez pas les réponses.
Bien sûr,
moi, j'ai, vous aimez ou parce que moi, je n'ai pas les réponses à tout. Je n'ai pas les réponses à tout. Je l'écoute, j'ai envie d'être attentif. Et en même temps, je suis troublé, comme beaucoup de parents, sur ce gouffre qui nous sépare, alors qu'une fois de plus, on a toutes les raisons de se parler. Nous, à table maintenant, parce qu'on a d'autres, on a deux, trois garçons, les deux plus jeunes, tu sais, tu commences par évacuer tous les sujets que tu vas pas aborder, parce qu'on se voit à Noël, et chacun a sa vie, tu vois, tu veux pas gâcher, mais en fait, ça vous arrive pas, tu veux pas gâcher le repas de famille, et tu dis, alors, on va pas parler de ça, on va pas parler de ça, on va pas parler, tu sais, parce que t'as juste envie que ça se passe bien, et tu te dis, mais on va plus parler de rien du tout. Et puis, je pense que l'écriture, le fait de mettre noir sur blanc, enfin, vous faites de la radio, moi, j'ai beaucoup fait de la radio. Je pense que l'écriture, c'est une espèce de fil, en fait, qui fait que tu peux dire des choses que je ne lui dirais pas.
Le livre, sont des petits chapitres qui commencent à chaque fois par une question, une interpellation de votre fille, et puis derrière, il y a le développement de la réponse. Alors, Barbara, Sandrine, Abel, qui se lance pour le dialogue avec Robert? Allons-y.
Moi, juste deux remarques. La première, c'est qu'en fait, je suis tellement habituée à votre voix. En fait, vous voyez, parce que ça fait longtemps que vous faites partie de l'échiquier politique, que vous êtes médiatisé. En fait, quand je lisais votre livre, j'avais le sentiment que c'était vous qui me lisiez finalement le livre. Donc, tellement, en fait, votre voix résonnait.
C'était fatigant.
C'était assez bluffant. Non, c'était
ça,
plutôt.
C'est pas ça, vous écrivez comme vous parlez, c'est vrai.
Exactement. Oui, mais en plus, vraiment, sa voix résonnait dans ma tête. Deuxième chose, je préfère vous le dire, au départ, j'étais en attente. Peut-être parce que vous avez le prénom de mon défunt père, Robert, et du coup, donc, je me disais, c'est beau sur le papier, c'est un père qui écrit à sa fille, qui essaye de renouer le dialogue, de dépasser les désaccords, d'essayer de vouloir la comprendre. Et en plus, vous écrivez même dans votre livre que vous ne voulez pas la convaincre.
Non.
Mais en fait,
je veux lui expliquer mes positions.
Oui, mais quand j'ai lu votre livre, finalement, pour moi, c'est totalement l'inverse. À chaque page que je tournais, j'avais l'impression que vous argumentiez vos points de vue et que en fait, c'est presque comme si Clara n'était pas là et c'était un prétexte. Du coup, je me suis posé la question, légitime ou pas, hein, mais en tout cas, c'est mon ressenti et je sais très bien que c'est difficile d'écrire un livre. Mais vraiment, est-ce que finalement, c'est une lettre que vous avez écrite à votre fille ou est-ce que c'est pas quelque part une tribune politique qui est déguisée entre vous et nous? Parce que vous faites part de vos doutes. Et d'ailleurs, pardonnez-moi, juste, je rebondis sur ça, mais parce que vous parliez du mariage homosexuel, mais dans votre livre sur justement les deux gendarmes, vous avez aussi donné la solution, à savoir que vous ne célébreriez pas le mariage homosexuel. En revanche, votre mairie, oui. Mais vous n'avez pas évolué sur ça.
Attendez. Non, vous l'avez un peu mal lu parce que je dis exactement le contraire. Attendez. Pardon, j'ai juste écrit quand même.
Sais
ce que j'écris.
En tout cas, c'est ce que vous dites.
Je dis que j'ai une réponse qui était la réponse. Je ne marie pas moi-même des couples homosexuels, mais que cette fois-ci, j'aurais été troublé parce que c'est des gens qui venaient me voir et tout ça.
Oui.
Mais, vous pouvez penser ça, vous savez, la réponse à la remarque que vous faites, c'est la réponse de ma fille, à la fin. C'est juste ça qui comptait. Initialement, on devait le faire à deux. Et puis, elle s'est pas sentie à le faire, et je le comprends, c'est compliqué de dialoguer avec moi, enfin, j'ai plus de facilité qu'elle sur ce terrain-là, c'est juste mon métier de faire ça. Voilà. Et la seule chose que j'attendais d'elle, je suppose que vous avez regardé les 15 lignes qu'elle consacre, c'est elle me dit, la seule chose qui me touche, elle constate qu'elle est d'accord, elle me dit, je t'aime.
C'est qui compte?
C'est la seule chose que j'avais envie d'entendre d'elle. Je t'aime. C'est tout.
Mais alors, vous avez des points communs quand même, parce que par exemple, vous êtes végétarien comme elle.
Ouais.
Pourquoi? Parce que c'est votre amour des animaux, vous dites, je peux pas les manger en fait, tout simplement.
Ouais, parce que je raconte, parce que je suis très copain avec un garçon qui s'appelle Michel Picmal et qui est... Si vous regardez les bibliothèques de vos enfants, vous verrez qu'il y a des livres de lui, mais on ne retient pas forcément le nom, vous savez, des auteurs de livres pour enfants. Il en écrit plein, c'est mon copain, on était en terminale ensemble et tout. Il écrit aussi des livres pour les adultes, et puis il m'envoie tous ses livres, je lis tous ses livres, parce que c'est mon ami. Et il y avait une petite nouvelle, et à la fin de la nouvelle, j'ai dit, plus jamais je ne mangerai un animal. Et ça me coûte tous les jours.
Depuis combien de temps?
7 ou 8 ans.
D'accord. Et pourquoi en fait?
Mais je donne la référence, vous n'avez qu'à le lire. Il ne va pas le faire. Le lâche.
C'est pour ceux qui nous écoutent.
Non, mais pour ceux qui nous écoutent. Non, parce que c'est un débat. Ici, autour de la table, par exemple, Barbara est animaliste, c'est son combat. Elle aussi ne mange pas d'animaux. Abel, lui, en revanche, il mange de la viande matin, midi et soir.
Qui dit ça?
Non, mais ça, ça m'a profondément troublé et ça me coûte tout le temps.
Oui, et vous soulevez d'ailleurs dans le livre la contradiction, me semble-t-il. Et vous, c'est cette contradiction que vous essayez d'expliquer à votre fille. Comment peut-on être végétarien, c'est-à-dire aimer suffisamment les animaux, ou en tout cas, c'est pas une question d'aimer les animaux. C'est considérer que les animaux sont des êtres vivants, doués de sensibilité et qui, comme nous, ont droit à une vie, qui sont les sujets d'une vie. Mais que dans le même temps, vous soutenez la corrida.
Ouais, mais c'est une contradiction. C'est une vraie contradiction.
Il y a beaucoup de paradoxes dans son.
Mais attendez, vous avez aucun paradoxe.
Non, mais la corrida, c'est quand même le lieu de l'exposition à la fois de la mise en scène d'un rapport de l'humain à l'animal qui est un rapport d'hyperdomination, et c'est la cruauté absolue de l'humain envers l'animal, la corrida. Donc comment est-ce que vous pouvez juste expliquer que oui, vous avez raison, tuer des animaux par milliards pour les manger, ça devient des actes de cruauté et non plus seulement des actes de ressources alimentaires. On est aujourd'hui avec l'industrialisation depuis 2 siècles dans la cruauté pure et simple sur les animaux. Et dans le même temps, la mise en scène de la cruauté humaine sur les animaux, vous trouvez que c'est un spectacle?
Non, je pense que c'est pas tout à fait ça, que vous êtes un peu caricatural. Je vous dis pas d'aller voir une corrida parce que vous n'irez pas la voir. Que moi, je vais les voir et j'ai toujours, je vous le dis, une espèce de distance et tout. Je la défends parce qu'elle est une dimension essentielle de ma ville. Enfin, pour ceux qui connaissent
Ça vous fâche pas avec vos électeurs.
Donc vous seriez élu maire d'Angers, vous seriez pas pour la corrida.
C'est une grosse connerie parce que même chez moi, je préfère pas interroger les gens parce que je crains que cette jeune femme ait raison et que même dans les villes du sud la majorité de la population sont contre.
Robert Ménard reste avec nous.
C'est une importation espagnole qui a été faite pour faire plaisir à l'impératrice Eugénie. C'est même pas une tradition française. Alors.
Débat, discussion avec sa fille sur la politique, sur la société aux éditions Télémac. Question qui continue. Robert Ménard reste avec nous.
RMC 9h midi. Les grandes gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
GG les grandes gueules avec notre invité aujourd'hui Robert Ménard. Robert Ménard avec ce livre de discussion politique avec sa fille. Mais enfin, c'est sous forme de questions de votre fille et puis derrière de réflexions que vous avez pu avoir ensemble et explications ensuite. Lettre à Clara aux éditions Télémac. Alors, Barbara Lefebvre, Abel Boyi. Abel.
Alors, moi, votre livre, je l'ai trouvé à la fois touchant parce que vous ouvrez votre cœur comme jamais, gênant à la fois aussi. Et j'ai décidé d'en faire une sorte d'expérience sociale. Je l'ai lu 2 fois. La première fois en tant que père, qui a une fille qui vient d'être majeure, et la deuxième fois en tant que fils. En tant que père, je me suis un petit peu reconnu, parce que je me dis, peut-être que moi, demain, avec ma fille, je peux aussi sentir une distance. Je peux avoir ce sentiment de perdre mon bébé, un peu comme vous l'exprimez. Et puis quand j'ai lu en tant que fils, ah, vous êtes chiant. Je parle cash, parce que vous parlez très cash. Bougon, voilà. Mais la question que je me posais, j'enlève les caricatures politiques qui ont été faites sur vous. Vous êtes passé de quand même de l'homme, monsieur reporter sans frontières, et vous êtes passé par une case quand même de l'homme qui a cherché à être un trait d'union entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Il y a des gens qui vous ont caricaturé, mais je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment été blessés, qui n'ont pas compris la démarche, parce que vous avez représenté la quintessence de la dignité de l'action humanitaire. Et ne pensez-vous pas que votre fille, qui est une fille d'eux, et on sait comment c'est difficile de protéger nos enfants lorsque l'on est exposé comme ça, n'a pas été la première blessée par ce changement, puisque vous dites justement, vous l'avez toujours impliqué dans vos actions de Reporters sans frontières, et quand elle a vu ça, comment elle a réagi? Est-ce que ça n'a pas été une fissure dans votre relation?
Je ne sais pas. En même temps, ce que vous dites, ça renvoie à une vision, et c'est ce que j'essaie de lui dire, de lui expliquer, des défenseurs des droits de l'homme qui est une caricature elle-même. Moi, j'étais très à droite quand j'étais le patron de Reporters sans frontières. Vous, je vous ai répondu à tous les deux comme patron de Reporters sans frontières. Mais jamais personne à ce moment-là ne Aucun journaliste pouvait imaginer que tu défendes les droits de l'homme en étant de droite.
Tout le monde pensait qu'il était de gauche, Robert.
J'étais de gauche, mais j'étais pas de gauche.
Oui, mais vous étiez
certains
pas.
Certains ne sont toujours pas remis.
Attends,
en
non, mais voilà, je ne suis pas la réponse. Ouais, ouais, ouais. Je dis d'abord la première chose. Mmh. Tu vois, dans la tête des gens, tu défends les droits de l'homme. Oui. T'es contre la pauvreté.
Vous avez commencé à gauche. Vous écrivez aussi dans le bouquin. Hein.
Non, mais attends, d'abord, oui. C'était que t'étais de gauche. Mmh. Merde, j'étais de droite. C'était un vrai problème. Ensuite, oui, mais moi, j'ai changé. Je le dis dans le livre. Moi, j'ai changé. Ce qui m'a fait changer, c'est le fait d'être maire. Le fait d'être maire, entre chaque fois que je fais une connerie à la mairie, c'est simple, c'est quand je prends une idée et que je l'applique alors que je regarde pas les choses sur le terrain. Et c'est ça qui, c'est ce qui m'a fait changer. Et ces changements, elle les a vécus en même temps que nous. Oui, bien sûr que c'est compliqué d'être... Attends, Emmanuel, moi, je vais vous raconter un truc. Quand Emmanuel, ma femme, a été candidate et a été élue comme députée, Clara, elle l'a mal vécu. Elle avait déjà son père comme maire, sa mère comme députée. Et quand t'es petite, que t'es à l'école, t'as pas envie, t'as juste envie qu'on te remarque pas et on te dit, tiens, c'est la fille du maire, tiens, c'est la fille du député. Bien sûr qu'elle avait, que ça a été difficile. Nous, on l'a mis dans des conditions difficiles. Elle a, quand t'es jeune, t'as souvent envie, d'anonymat. Tu vois qu'au milieu de tes copains, on te renvoie pas sans arrêt à tes parents. En plus, dans une ville, t'imagines, en plus dans une... Puis moi, je suis à la télé, donc tout le monde me connaît, tout le monde. Dans ma ville, oui, tout le monde me connaît, me reconnaît et tout, bien sûr. Mais moi, j'en
suis... Mais pour elle, ça a dû être dur quand même d'être la fille de celui qui voulait être trait d'union entre Zemmour et Le Pen.
Oui, bien sûr, bien sûr. En plus, elle n'aime ni l'un ni l'autre, pour dire les choses.
J'imagine bien.
Barbara.
Votre fille, comment est-ce qu'elle se positionne, par exemple, sur les questions de, notamment de laïcité et de, par exemple, le fait que vous avez continué à mettre une crèche dans votre mairie, en dépit de l'excitation d'un certain nombre d'élus et de préfets, etc. Comment se positionne sur ces questions-là?
Non, là-dessus, il n'y a pas de problème, parce que la crèche est à la maison, parce que... Alors, pour aller à la messe, honnêtement, on la traîne. Enfin, surtout Emmanuel, ma femme, elle la traîne, parce que, vous voyez, une fois qu'elle a fait Noël, elle pense qu'elle a donné pour le bon Dieu ce qu'elle devait faire.
C'est le prix à payer. Sur la question de la crèche à la mairie, je parle.
Non, je pense qu'elle le comprend. Mais vous savez, à Béziers, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. C'est pas à la droite qui est d'accord. Non, mais dans Béziers, tout le monde. T'as 65 000 personnes qui viennent à la crèche, qui viennent la voir. T'as des femmes voilées, ceux qui viennent avec leurs enfants à la crèche. C'est un fantasme. De je sais pas qui, de types qui vivent je sais pas où.
Qui vivent de ça.
Puis trois associations qui...
Non, justement, parce que ça va nous amener aux deux questions d'actualité, là, il nous reste trois minutes. Première question d'actualité, puisque vous parlez des femmes voilées. Laurent Nunes dit qu'il ne veut pas être le ministre de l'Intérieur qui va interdire le voile aux filles mineures dans l'espace public. D'accord avec ça ou pas?
Attends, qu'à la fac, par exemple, on interdise le voile, je suis absolument pour. Qu'on l'interdise dans toutes... L'espace public, je pense que c'est...
Pour les mineurs. Il parle des enfants, des mineurs. Il parle des petits. Il a dit, à la Grande Mosquée de Paris, il y a trois semaines, pendant un iftar, il a dit qu'il ne sera pas...
Sur les mineurs,
Il refusait absolument l'interdiction dans l'espace public du voilement des petites filles, des filles et des jeunes filles. Des filles et des jeunes filles. Donc il a vraiment parlé clairement des mineurs.
Je suis profondément troublé, choqué, quand je vois des gamines dans ma ville... qui sont voilés à 10 ou 12 ans. Ça me hérisse le poil. Ça me hérisse le poil. Absolument. Vous non?
Mais est-ce qu'il faut l'interdire? Parce qu'en fait, Laurent Nunes dit, si on l'interdit, on va les stigmatiser, on va pas demander aux policiers d'aller voir les enfants.
Et Laurent Nunes a appuyé son propos en disant, je parle ici aussi en soutien du président de la République, Monsieur Macron, qui tient à, je cite, Monsieur Nunes, à développer et faire connaître l'islam. Je ne savais pas que c'était le rôle du président de la République.
Non, mais là, on en parlait juste hors micro et tout. C'est une espèce de gens qui ont toujours besoin de montrer patte blanche quand ils sont de droite à la gauche. Aujourd'hui, à l'islam. Attends, l'islam et l'islamisme, c'est pas la même chose. Moi, j'ai aucun problème avec les musulmans. Attends, si j'avais un problème avec les musulmans dans ma ville, honnêtement, je serais pas élu comme je suis élu.
Est-ce que le voilement des petites filles, c'est le signe de l'islam politique?
Bien sûr.
Voilà. Monsieur Nunes pense que non.
Mais bien sûr.
Deuxième question d'actualité. Est-ce que vous êtes choqué par le retour de Raphaël Arnaud, député de la France Insoumise, à l'Assemblée nationale? Monsieur
Profond. Non, j'essaie de réfléchir.
Bien sûr,
pour pas vous faire une réponse toute faite comme ça. Oui. Profondément. Je pense que ce garçon qui a eu autant de... Comme ils étaient deux ou trois de ses collaborateurs.
Trois.
Au milieu, trois de ses collaborateurs impliqués. Honnêtement, qu'est-ce que tu vas intervenir ensuite à l'Assemblée nationale?
Parce qu'ils ont un devoir d'exemplarité.
Ben oui, mais ils l'ont pas. Ils l'ont plus. Il l'a plus. Et c'est pas quatre semaines de silence médiatique.
Un mois et demi.
Mais monsieur Ménard, il a été élu pour ne pas être exemplaire. C'est quand vous élisez quelqu'un qui a créé la Jeune Garde, qui est un militant radical, on l'élit précisément pour qu'il ne soit pas exemplaire. C'est ça l'objectif.
Attendez, vous croyez que je le sais pas?
Bah donc.
Vous croyez que vous savez pourquoi je suis content chez moi pour les élections? Parce que j'ai réduit la France insoumise à moins de 4% dans ma ville. Vous savez ce que c'est, moins de 4% dans une ville où les deux tiers des enfants des écoles publiques sont issus de l'immigration et pour la plupart musulmans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut imaginer une façon de parler aux gens sans les renvoyer à ce qu'ils sont.
Ah oui, parce que c'est des citoyens à part entière.
La liste à Béziers chez moi, quand vous regardiez la liste, il y a l'idée dessus. Plus je mets de noms arabo-musulmans, plus les arabo-musulmans en question vont voter pour moi. Et c'est pas vrai. Les gens sont pas comme ça. Il y a une minorité de connards qui sont comme ça. Mais l'immense majorité, ils ont juste envie, ils ont les mêmes problèmes que nous, ils ont envie, c'est déjà compliqué de s'intégrer bien. Et moi, je suis content de réduire à ce peu de choses la France insoumise. Je suis d'accord avec vous. Ils vivent de la transgression. Et oui, mais la transgression, ça te fait dire des saloperies, blesser les gens.
Ce qui fait que, merci. Parce que c'est un second tour qui est possible dans un an, entre Mélenchon et Bardella, vous votez pour qui?
Bardella. Mais je ne souhaite pas arriver à ce choix-là.
Merci Robert Ménard, lettre à Clara aux éditions Télémac. Merci d'être passé par les GG. Dans un instant, la garde partagée des animaux domestiques. Comment on fait quand un couple se sépare? Qui a droit à qui? On va essayer de comprendre ça. Et si vous avez vécu cette situation, c'est au 32-16 que ça se passe.
RMC, 9h midi, les grandes gueules. RMC,
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
Vous êtes avec les grandes gueules, il nous reste un quart d'heure à passer ensemble, un quart d'heure avec Barbara Lefebvre, Sandrine Pégan et Abel Bouilly, l'éducateur, l'avocate, l'enseignante en histoire, géographie. On va s'intéresser à la garde partagée, pas des enfants, des animaux. En fait, c'est le Brésil qui vient d'adopter une vraie loi, qui vient de se prononcer sur la législation en cas de séparation des couples, pour statuer sur qui garde les animaux.
Et proposer, alors s'ils le veulent, si le couple qui se sépare le veut, de proposer une garde alternée des animaux de compagnie, puisque au Brésil, eh bien, on considère que ces animaux de compagnie sont considérés comme des membres de la famille, et donc il faut une loi, un cadre juridique pour permettre la répartition des animaux. Il peut y en avoir plusieurs, d'ailleurs, des chats, des chiens, etc. En France, ces animaux sont toujours considérés comme des biens, donc finalement...
Ça a évolué.
L'ambiguïté de la loi française qui d'ailleurs montre bien que nous sommes dans un en même temps qui ne pourra pas durer.
On va en parler.
Des biens,
on va te remettre à jour.
C'est un bien meuble, mais en même temps, c'est un être doué de sensibilité. Donc, c'est pour ça que je dis que...
Donc c'est un meuble qui a un cœur, en fait. Voilà, c'est considéré. Alors je termine, c'est donc considéré toujours comme un bien meuble, même si effectivement on a un petit peu fait évoluer la loi, mais pas suffisamment pour arriver comme au Brésil à considérer qu'on peut organiser une garde alternée.
Alors, Maître Pégan, que dit le Code civil? Qu'est-ce qui est prévu en France, alors?
Maître Pégan sur un arbre perché. C'est pas ça, c'est une autre. Bref. Aujourd'hui, la question est de savoir si, en cas de séparation de couple, il y a une loi ou un décret qui permet de pouvoir donner des dispositions particulières sur qui disposerait de l'animal de compagnie. Il n'y en a pas.
Alors, comment ça s'organise?
Alors, moi, quand je le plaide devant le juge aux affaires familiales, quand il y a un chien, un chat, ça arrive aussi, et je préfère le dire, avec des poissons rouges, ça m'est déjà arrivé, bon, ça fait partie d'un package, et ben le juge considère que ça reste encore comme des meubles. Donc, du coup, il fait le partage comme des meubles. Et donc, ça peut être...
Il n'y a pas une question d'achat du chien, ou qui a acheté le chien, ou ça a été... avant le mariage?
Non, parce que du coup, après, il y a aussi un lien affectif qui s'est créé. Donc, c'est sauf meilleur accord des parties. Et en général, en tout cas, tous mes clients, ils sont pas tous intelligents, mais bon, là, ils l'ont été. À chaque fois, eux, ils arrivaient à se mettre d'accord entre eux. Mais le juge, lui, comme il n'y a pas véritablement de décret et de loi qui permet de pouvoir se reposer dessus pour juger. Du coup, il fait en fonction de ça.
S'il n'y a pas d'accord, comment ça se passe ?
Souvent, c'est dans les conventions de divorce avec consentement mutuel, on peut insérer des clauses qui font que le JAF, bah, il sait où aller, puisque le couple s'est déjà entendu. Donc ça, c'est pour les divorces qui se passent bien, quand ça se passe bien.
Et alors moi, pour la petite anecdote, c'était jusqu'en 2015 que véritablement l'animal était encore considéré comme un bien meuble, j'ai pu bénéficier de cette disposition pour pouvoir attaquer mon éleveuse. Donc vraiment, je suis allée au tribunal.
Éleveuse de quoi ?
De mon éleveuse de chat, parce que je suis propriétaire d'un chat que j'adore, qui s'appelle Idem, c'est la prunelle de mes yeux. Et en fait, j'ai acheté un chat au départ, donc j'ai donné un acompte, et mon chat que j'avais choisi était censé avoir 4 pattes blanches. Je ne rigole pas, hein, je suis pas une vieille fille avec son chat.
Donc, vas-y, raconte.
Et donc, j'ai choisi mon chat avec 4 pattes blanches. Et en fait, à la livraison, donc 2 mois et demi après le sevrage, eh bien, figurez-vous que mon chat s'est retrouvé qu'avec une seule patte blanche. Mais moi, je m'en suis pas rendu compte. Quand je suis allée récupérer mon chat chez l'éleveuse, elle m'a posé plein de questions sur le recouvrement de sa pension alimentaire, de son ex, etc. Donc moi, dans l'empathie, forcément, je lui donne des conseils juridiques et elle me détourne comme ça de mes moyens de contrôle sur le chat. Je rentre chez moi. Figurez-vous que le chat, le lendemain, ça n'allait plus. Je l'emmène chez le vétérinaire. Le vétérinaire me dit « Mais c'est quoi, madame, votre chat ?» Je dis « Vous plaisantez, j'ai pas dépensé 900 euros pour que vous me disiez, vous, en tant que vétérinaire, qu'est-ce que c'est comme race de chat ?» Il me dit « Bah désolé, mais vous me dites que c'est un sacré de Birmanie. Mais le sacré de Birmanie, normalement, il a 4 pattes blanches. Et là, il en avait qu'une. » Donc du coup, j'ai appelé l'éleveuse qui m'a dit « Ah, oh, ben je me suis trompée. » Et donc le chat que j'avais réservé avait été donné à quelqu'un d'autre. Donc vous doutez bien. Et en fait, j'ai trouvé ça par principe tellement choquant, je me suis dit elle a trahi la confiance que j'avais dans un éleveur professionnel. Du coup, je l'ai attaqué parce qu'elle m'a dit « Ah, de toute façon, vous êtes une procédurière, jamais j'aurais dû vous le vendre. » Et donc, on est parti devant le tribunal d'instance, ça a duré 1 an et demi l'histoire. Et ben,
t'as gagné ?
J'ai gagné sur le fait qu'elle m'a remboursé l'animal. Et en plus de ça, je l'ai attaqué après au commerce et je lui ai fait fermer son élevage pendant 4 mois.
Et tu as gardé le chat à la fin ?
Et j'ai gardé le chat. Mais parce que justement,
elle
c'était encore considéré.
Ouais, voilà.
Fred est avec attendez. Nous. Attends, oui, juste parce qu'on a Fred qui va nous...
Mais... Pardon, Barbara. j'ai mobilisé
non,
la
non,
parole.
Non, t'inquiète pas, tu vas pouvoir...
C'est 13h, fin d'émission. Voilà.
Mais on a Fred qui justement veut parler de la garde alternée parce qu'il est divorcé, il est dans le Var. Et comment ça s'est passé pour les chiens, Fred, alors ? Bonjour, ou le chien, dites-moi.
Bonjour. En fait, je vais essayer de faire court. J'étais donc marié. Ma femme avait un basset-hound. Et comment dirais-je ?
C'est quoi ?
Et
ensuite, un basset-hound, c'est le chien comme de Colombo.
D'accord.
Voilà.
Ah. C'est d'accord.
Voilà. Et ensuite,
très gentil chien. C'est des très gentils chiens.
Donc ça, c'est son chien. Elle l'a acheté. Et ensuite, on a adopté, pour pas que l'autre soit tout seul, un canet corso qui avait 5 mois.
Très bien aussi,
et
canet corso.
On
très
s'est
joli.
Séparé. Donc en 2024 et donc là comment on fait avec les chiens ? Alors bah ça a été assez simple on va dire si on est je vais pas dire intelligent mais bon mon ex a une grande maison, un grand terrain, piscine, etc. Donc les chiens sont beaucoup mieux chez elle que chez moi qui fait j'ai encore réduit l'appartement malheureusement de 30 mètres carrés où pour les toutous c'est un petit peu compliqué bien que je me suis débrouillé à avoir un petit logement avec un rez-de-jardin pour mes toutous donc je les prends 3-4 jours par semaine ou plus ou moins il y a pas de règles strictes.
D'accord.
Oui, c'est meilleur
c'est
à prendre des principes.
Parce que l'entend. Vous entendez bien avec votre ex. Ouais, voilà. Et malheureusement, pas le cas toujours dans les séparations.
Bon sens, mais...
Et vous êtes intelligent.
Voilà. Et vous partagez et les chiens, les frais, vous partagez tout.
Un jardin.
Voilà.
D'accord. Vous Fred, il a réussi à bien s'entendre.
De bienveillant.
Barbara.
C'est très intéressant cette question parce que ça montre bien qu'on est aujourd'hui dans une époque pivot. Où l'animal, dans tous les pays, j'irais occidentaux, puisque on voit l'Espagne, le Portugal, les États-Unis, le Brésil, tous ces pays ont beaucoup changé sur la question de la considération de l'animal domestique, voire animal de compagnie, puisque là on est sur encore une autre catégorie d'animal domestique, c'est l'animal de compagnie. Ce n'est plus un bien meuble, c'est pas un canapé. Quand on se sépare, tu prends le canapé, et l'autre prend pas le canapé, on va pas se couper le canapé en deux. Bon, l'animal, il a un statut, ça va choquer peut-être des gens, mais c'est pour ça qu'on parle au Brésil de coparentalité animale. Il a pour certains, dans certaines familles, le rôle d'un bébé, d'un enfant. Il y a même des gens qui le considèrent comme leur enfant, d'autres qui disent, de toute façon, c'est comme un enfant. Bien sûr, on sait très bien que c'est un animal, mais c'est aussi comme un enfant. Et dans le droit français, ça se juxtapose avec le fait que c'est un être vivant doué de sensibilité. On voit bien, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, on ne pourra pas tenir longtemps ce statut juridique ambigu. On ne peut pas être à la fois un bien meuble et en même temps un être vivant doué de sensibilité. Aujourd'hui, le droit, dans bien souvent, par la jurisprudence, et c'est ce qu'a expliqué Sandrine, il évolue parce qu'il évolue avec la société. Aujourd'hui, on voit bien que l'animal, il a une place qui est une place comme un membre à part entière de la famille, à part entière. Donc aujourd'hui, quand on est sur une question de garde, les juges, souvent, ils vont regarder qui s'en occupait le plus pour affecter l'animal, la capacité financière à assurer les soins. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi un partage financier, le lien affectif. Parce que parfois, dans un couple, le lien affectif n'est pas le même. L'animal lui-même se lie plus avec l'un ou l'autre. Et surtout, s'il y a la présence d'enfants. Parce que ça, c'est important quand un couple se sépare. Si vous avez un couple qui se sépare et qu'il n'y a pas de garde alternée, c'est normal qu'on laisse l'animal avec l'enfant parce que c'est très important dans la construction aussi de l'identité de l'enfant. Et s'il y a la garde alternée de l'enfant, il faut que l'animal aussi, il transite. Sauf que, attention, pas les chats. Là, pour une question d'éthologie, le chat est un animal très territorial. Si vous trimballez le chat d'une maison à l'autre toutes les semaines, alors avec le temps, peut-être qu'il va s'habituer, mais c'est perturbant pour un chat. Oui, le chien, il est beaucoup plus. Le territoire du chien, c'est son humain. C'est-à-dire que vraiment, il va n'importe où avec son humain. Mais le chat, non, le chat, il est très territorial. Donc, il ne faut pas faire de la garde alternée avec le chat. Attention, éthologie. Donc, bien connaître l'animal, bien connaître les animaux.
T'as un animal ou t'as un chien ou un chat?
Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout.
Mais t'as changé d'avis avec nous aujourd'hui.
Il est orphelin.
Je suis ému d'écouter tous ces amoureux des animaux et tout cet engagement. Non, mais j'avais une question. Est-ce que ça peut arriver un jour qu'un chien porte plainte?
Bien sûr.
D'accord.
Oui, par l'intermédiaire d'associations.
C'est une question sérieuse.
Oui, bien sûr, par l'intermédiaire d'associations. Écoute, on peut bien poursuivre quelqu'un parce que son chien a mordu, alors que pour moi, je considère que c'est pas le chien. On en a déjà parlé.
Est-ce qu'un chien peut porter plainte contre un autre chien qui lui mord la queue?
Mais l'association, elle va pas déposer plainte au nom du chien.
Tu peux porter plainte pour la défense du chien
contre le propriétaire.
On a un autre exemple.
Mais si deux chiens se battent parce qu'il y en a un qui a pas fait attention à son chien qui est
Alors, je remercie Fred. On a un autre exemple avec Julien. Julien qui est technicien aéronautique. Bonjour Julien.
Que Curtis n'a toujours pas été euthanasié.
Julien, vous aussi, exemple de divorce avec chien au milieu, c'est ça?
Alors non, moi c'est pas le divorce. Enfin, je suis pas divorcé, mais disons que si je devais me séparer de ma compagne, pour moi le chien. Enfin, je le considère comme un enfant, c'est un membre de ma famille en fait. Il y a un lien affectif très fort.
Donc, ça serait un déchirement d'être séparé de votre animal aussi.
Plus que votre ex.
C'est un déchirement. Les deux seraient un déchirement, mais en vrai, c'est un déchirement.
C'est toujours ensemble.
Et Barbara a dit un truc très juste. À partir du moment où, en plus de ça, il y a des enfants dans un foyer, pour moi, il est important que l'animal suive les enfants parce que ça aide la construction de l'enfant et il y a un lien affectif très fort. Mais là où, malgré tout, je trouve que c'est un peu accessoire, ces questions-là, c'est que de là en faire une loi, c'est un peu exagéré. Je pense qu'il faut faire appel à l'intelligence des gens. Et après,
oui, là, malheureusement, monsieur.
Oui, mais alors, malheureusement, c'est pas toujours
dans
le cas.
Dans les prétoires, on voit un peu tout
juste avant lorsqu'il y a une séparation. C'est-à-dire que Maître Pégan peut imaginer que, comme ça arrive malheureusement parfois avec les enfants, l'animal devient un objet de crispation.
Exactement.
Et un enjeu de pouvoir.
Lorsque
aussi.
Le bien couple sûr. Conjugal, moi je trouve que ça c'est toujours quelque chose que je comprendrai jamais. Quand le couple conjugal n'existe plus, le couple parental, lui, il existe pour l'éternité.
Oui, mais ça c'est encore dans
vous
l'idéal.
Vous restez un couple parental.
C'est dans l'idéal.
Et avec
Barbara.
Les animaux, c'est la même chose. L'amour n'existe plus dans le couple.
Mais tu sais, l'amour se transforme en haine.
Julien,
c'est très bien dit, Olivier.
Julien,
c'est bien dit. Je suis en train d'écrire un livre.
Lettre à mon chat, ça va se faire.
Édition Télémarque.
Le chat qui va te poser des questions.
Lettre à mon chat que je n'ai pas. Ce chat que je n'ai pas.
Lettre à
ma
migale.
T'as pas d'animaux. Il en a eu.
J'ai eu un chat.
Tu connais pas Lilo?
J'ai eu des chats.
J'ai jamais vu Lilo.
C'est un tépère. Je suis allée à Nice, mais t'aurais dû venir avec la dédicace.
Alain a toujours dit qu'elle garderait pas tes.
Ah ben moi, l'enjeu sera pas le chien, sera les boules à cave à vin.
Oh.
Ouais, tu gardes le chien et je garde la cave à vin. Lorsqu'un mariage a été contracté et que l'achat ou l'adoption de l'animal est antérieur à la situation. L'animal est alors considéré comme le bien propre de l'époux qu'il a acheté ou recueilli.
Oui.
Si l'animal arrive pendant le mariage, tout dépend de l'existence du contrat de mariage. Si le couple vit sous la régime de la communauté réduite aux aquais ou de la communauté universelle, l'animal acquis ou adopté est supposé appartenir aux deux époux. Il n'y a que dans le cas d'un régime de séparation de biens que l'animal appartient à celui qui en a fait l'acquisition à condition d'apporter la preuve de la propriété de l'acquisition.
Oui, c'est-à-dire l'ICAD. Parce que c'est vrai que quand tu déclares l'animal à l'ICAD, tu vas pas mettre monsieur et madame. Mais la réalité, c'est le lien affectif que tu as avec. C'est pas
et
un
là,
bien meuble.
On en revient ensuite à ce qu'a dit Sandrine Pégan tout à l'heure. En cas de conflit, d'impossibilité de se mettre d'accord, eh bien, c'est le juge des affaires familiales qui tranche et qui prend alors la décision de confier l'animal à
l'un. Et qui peut avoir de lourdes conséquences.
Ou à l'autre. Mmh. Mais il prend en compte les éléments comme
Et s'il n'y a pas de garde alternée, le juge peut décider d'une pension alimentaire et d'un partage des frais vétérinaires. Parce qu'excusez-moi, parce qu'il faut partager aussi les frais alimentaires, hein, c'est comme les frais de garde. Hein.
Ouais. Merci à tous, il me reste 30 secondes pour souhaiter un bon anniversaire à RMC Gold. Peut-être c'est un an aujourd'hui, la petite sœur d'RMC qui passe la musique des années 80-90.
Et donc, du nouveau en plus, la grille s'est étoffée. Estelle peut nous en parler.
Mais tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'on va en parler. À 14h, on va parler de cet anniversaire, Alain. Parce qu'on va se demander si le style de vie des années 80-90 vous manque, justement, par rapport à.
Il est revenu passer ma jeunesse, moi, à ce moment-là.
Bah, moi, j'ai coupé.
Bah oui, moi aussi. Mais c'est un peu
quand
tout,
tu vois les photos des années 80, on avait quand même des trucs à épaulettes.
Ce qui est drôle, c'est que les mômes d'une vingtaine d'années fantasent sur les années 80. Ils sont persuadés que les années 80, c'est les meilleures années du monde.
Oui, mais ils ont raison, c'était les meilleures années.
Non,
on était libres,
on avait de 17 à 25 ans,
on était adolescents.
Non, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on avait téléphone à fil. Excuse-moi, on
avait des vieux cons. Mais qui te chauffait sur l'oreille, elle fait que tu prennes l'écouteur, tu te faisais
engueuler. Ta mère, elle prenne l'écouteur.
Tu faisais engueuler parce qu'on disait, tu diras à tes copains qu'ils arrêtent d'appeler quand on passe à ta
rouge.
Et tu restes que 5 minutes.
Mais tu faisais
le
mur et personne ne pouvait le savoir.
Bah, ça m'est pas arrivé beaucoup.
L'essentiel au téléphone.
Ah oui, respect
de payer. Est-ce que c'était mieux les années 80?
Ça, ce sera à 14h. Et puis dites-nous, tiens, quelle est votre chanson, vous, des années 80-90, celle que vous écoutiez le plus dans votre Walkman? Ça, on en parlera à 14h. Appelez-nous au 32-16. Mais on va commencer dans un instant dans SMD à parler de ce sondage de l'Institut Montaigne. 92% des Français inquiets à cause de l'inflation et de la hausse des prix des carburants. Est-ce que vous aussi, vous partagez cette inquiétude? Venez vous le dire. Venez nous le dire, évidemment. On parlera également de Donald Trump, hein, qui se moque de notre couple présidentiel. Est-ce qu'Emmanuel et Brigitte Macron doivent répondre au président américain, ou est-ce qu'on doit se laisser faire, là, comme ça, ne rien dire, rester muet? Ça, c'est la question qu'on se posera à 12h30. Et puis, il y a pas mal de pays qui commencent à miser sur le télétravail pour lutter, justement, contre la hausse des prix des carburants. Est-ce qu'il faut tout miser sur le télétravail, ou est-ce que ce serait un gros retour en arrière, même
c'est difficile pour les aides-soignantes quand même.
C'est pour les plus précaires, les caissiers,
c'est bien pour les cadres,
les aides-soignants.
C'est un truc de cadre, ça.
Le tu préfères. Je pense que vous vous battez forcément au restaurant pour ça. Qui au plate ou au gazeuse. Vous savez, au moment où le serveur arrive, dire au plate ou au gazeuse, et alors là, c'est.
La fois la gazeuse, ça fait de
l'aide. Bah oui. Carafe d'eau, s'il vous plaît.
Donc t'es pas au gazeuse, t'es au lot de la
table. Mais l'eau plate, tu la payes. Donc la carafe d'eau, tu la payes pas.
Non, mais tu peux avoir.
Tu peux avoir une Evian ou une.
L'eau de la ville n'est pas bien traitée. Bouteille d'eau.
Des infiltrés.
La carafe.
À 7 euros.
Voilà, c'est tout.
Tout à fait d'accord.
Merci.
Au gazeuse.
Ça fait de l'aérophagie.
Mais alors, mais oui, mais au restaurant, tu dois. Tu dois prendre des trucs que tu prends pas chez toi.
Je pourrais prêter la télé.
Oui, voilà, c'est ça. C'est l'âge, ça n'a rien à voir avec l'eau gazeuse.
Allez, bonne émission avec Estelle au 32-16 et nous on se retrouve demain à 9h.